Pendant tout l'été, on a parcouru une partie de ce grand prophète, Ésaïe, et nous sommes arrivés aujourd'hui au chapitre 37, et je vais lire les versets 21 à 38, qui est une parole de l'Éternel transmise par Ésaïe. Mais après l'avoir lu, on va revenir un petit peu vers le chapitre 36 et 37, parce que pour comprendre cette prophétie, faut comprendre ce qui a précédé. Tout le monde n'était pas là. Je me suis dit, c'est bien de revenir un peu sur ce qui a précédé. Pour ceux qui étaient là, c'est toujours une bonne révision. Pour ceux qui n'étaient pas là, c'est presque une condition sine qua non pour comprendre ce texte aujourd'hui. Mais je vais quand même le lire d'abord à partir du chapitre 37 et le verset 21. Alors, Ésaïe, fils d'Amoz, fit dire à Ézéchias, donc Ézéchias c'est le roi à Jérusalem, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sennachérib, le roi d'Assyrie. Et voici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. Elle te méprise, elle se moque de toi, la Vierge, la fille de Sion. Elle hoche la tête sur toi, la fille de Jérusalem. Qui as-tu défié et insulté? À qui t'es-tu attaqué par tes paroles? Tu as lancé un regard insolent vers le Saint d'Israël. Par l'intermédiaire de tes serviteurs, tu as défié le Seigneur. Tu as dit, c'est grâce à mes nombreux chars que j'ai gravi le sommet des montagnes, les pentes du Liban. Je couperai les plus grands de ses cèdres, le plus beau de ses cyprès, et j'atteindrai sa dernière cime, sa forêt pareille à un verger. J'ai creusé des puits et j'en ai bu l'eau. Je mettrai à sec avec la plante de mes pieds tous les fleuves de l'Égypte. N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces événements depuis longtemps, que je les ai prévus dans un lointain passé? Maintenant, j'ai permis qu'ils s'accomplissent et que tu te transformes. Et que tu transformes des villes fortifiées en tas de ruines. Leurs habitants sont impuissants, épouvantés et pleins de honte. Ils sont comme l'herbe des champs et la tendre verdure, comme le gazon des toits et le champ avant que le blé ne soit mûr. Mais je sais quand tu t'assieds, quand tu sors, quand tu entres, quand tu es furieux contre moi. Oui, tu es furieux contre moi et ton arrogance est montée à mes oreilles. C'est pourquoi je vais mettre mon anneau à tes narines et mon mors entre tes lèvres, et je vais te faire repartir par le chemin que tu as pris à l'aller. Voici ce qui te servira de signe. On mangera cette année ce que produit le grain tombé en serre, une deuxième année ce qui pousse tout seul, mais la troisième année, semez, moissonnez, plantez des vignes et mangez-en le fruit. Les rescapés de la communauté de Juda, ceux qui seront restés, plongeront de nouvelles racines vers le bas et porteront du fruit vers le haut. En effet, un reste sortira de Jérusalem et du mont Sion des rescapés. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le maître de l'univers. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel à l'intention du roi d'Assyrie. Il n'entrera pas dans cette ville. Il n'y tirera pas de flèches. Il ne lui posera pas de bouclier, ne construira pas de retranchement contre elle. Il repartira par le chemin qu'il a pris à l'aller. Il n'entrera pas dans cette ville, déclare l'Éternel. Je protégerai cette ville pour la sauver à cause de moi-même et à cause de mon serviteur David. L'ange de l'Éternel sortit et frappa 185 000 hommes dans le camp des Assyriens. Quand on se leva le matin, ce n'était plus que des cadavres. Alors Sennachérib, le roi d'Assyrie, leva le camp et repartit et resta à Ninive. Et un jour où il était prosterné dans le temple de son dieu Nisroch, ses fils Adramélec et Charetzer le frappèrent de l'épée avant de se réfugier au pays d'Ararat. Son fils Adon devint roi à sa place. Donc d'abord, c'est un texte plutôt prophétique qui n'est pas facile toujours à comprendre parce que c'est dans le genre prophétique. Et il y a à la fin un petit post-scriptum historique digne des films que l'on a, c'est la réalité de la guerre. à la fin. Mais pour comprendre tout ça, on va revenir un petit peu en arrière. Et je vais déjà répondre à une question. Alors pourquoi on se réunit un dimanche matin pour lire ensemble ce qui s'est passé il y a 2500 ans au moins? C'est parce que tout ce qui a été écrit d'avance a été pour notre instruction. C'est Romains 15, et le verset 4 qui le dit. Alors, petite révision pour ceux qui étaient là, petit résumé pour ceux qui n'étaient pas. Voilà, petite carte du Proche-Orient pour comprendre. Je résume ce qu'on voit depuis quelques semaines. Israël se trouve ici. Donc, voilà, Jérusalem qui est là, c'est la Méditerranée. Et Israël se trouvait toujours coincé entre deux grandes puissances militaires, l'Égypte d'un côté, et de ce côté-là, la Mésopotamie, où tour à tour, c'était différentes puissances, la Syrie, la Babylone, les Perses. Au moment où on part, ce sont les Assyriens, dont la capitale se trouve à Ninive, là. Il est question de Ninive dans le texte. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les Assyriens commençaient à agrandir leur empire. Et ils ont attaqué toutes les villes en Israël. Ils ont pris toutes les villes, à l'exception de Jérusalem. Il ne restait plus que Jérusalem. Le roi Ézéchias à Jérusalem a fait une bêtise, parce que ça n'a pas marché. Il a envoyé de l'argent du côté de l'Égypte pour dire « venez m'aider », mais les Égyptiens n'ont pas vraiment bougé. Deuxième bêtise, il a donné de l'argent à Sanchérib, le roi des Assyriens, qui a pris l'argent, mais qui a continué quand même à attaquer la ville. Donc c'était la grosse trahison en plus. Donc voilà la situation. Tout Israël est sous le contrôle maintenant des Assyriens, à l'exception de Jérusalem. Et c'est à ce moment-là, au début du chapitre 36, que Sanchérib envoie son porte-parole qui s'appelle Rabshaké, pour aller défier le Jérusalem, en fait, pour les sommer à se rendre. Disons, c'est pas la peine de résister, voilà. Et il a 7 ou 8 arguments, je me souviens plus combien, mais on va les passer en revue très rapidement, tous les arguments que le Rabshaké crie. Et les trois envoyés d'Ézéchias qui sont allés les rencontrer, au milieu, ils disent, mais bah, parlez-nous en araméen, parce que tout le peuple se lumière et comprend quand vous parlez en hébreu. Il dit, voilà, je veux qu'ils comprennent. Je vais continuer à parler en hébreu quand même. Donc voilà, tous les arguments. Certains arguments semblent très plausibles, certains sont un peu tirés par les cheveux. Premier argument, le roi Ézéchias, il pose la question, en qui vous faites confiance alors, face à nous? Le roi Ézéchias, ça ne sert à rien, il n'a pas d'expérience de la guerre, hein? Pas comme Sanchérib. Deuxième argument, l'Égypte comme allié, il compare l'Égypte à un roseau cassé, donc le roseau est cassé, au bout, à ce moment-là, il y a des morceaux qui sont très mordants, hein, très piquants. Alors, si on s'appuie sur le roseau cassé, d'abord, ça n'aide pas et on se fait du mal à soi-même. Donc, l'Égypte, c'est comme un roseau cassé. Troisième argument, alors, est-ce que vous allez vous confier en l'Éternel? Et Rabshaké dit, non, l'Éternel ne va pas vous aider parce que votre roi Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux. Bon, là, il comprend rien à la religion, on va dire, parce que les hauts lieux, c'était les lieux d'idolâtrie. Mais le Rabshaké confond tout et il pense que Ézéchias a détruit des lieux de culte de l'Éternel, ce qui n'était pas vrai, mais enfin, c'était son argument. Un argument un peu ridicule, j'ai ajouté. Avec un point d'exclamation. Quatrième argument. Alors, est-ce que vous allez faire confiance à votre armée? Qui est pratiquement inexistante. Alors, Rabshaké, il ironise et dit, écoutez, je vais vous donner, mon roi va vous donner gratuitement 2000 chars si vous pouvez trouver 2000 militaires pour les monter. Il n'en avait pas. Cinquième argument, Dieu m'a dit d'aller détruire Jérusalem. Voilà, c'est un argument très intéressant, parce que à quoi bon de résister si Dieu m'a dit d'aller attaquer Jérusalem? On se demande pourquoi il a dit ça. On pense peut-être parce qu'il avait le message d'Ésaïe, il est parvenu aux oreilles, où Ésaïe disait, attention à Jérusalem, si vous ne vous repentez pas, je vais envoyer quelqu'un pour détruire votre ville. Peut-être qu'il a tout confondu encore. Bon, c'était son argument. Sixième argument, bon, il ne faut pas écouter Ézéchias parce qu'en fait, lui, il ne répète que ce que Ésaïe lui dit. Avant-dernier argument, si la ville se rend, vous vivrez en paix. C'est pas la peine de vous faire tuer. Si vous rendez, chacun aura sa ville, chacun aura son figuier, vous serez tranquille. Bon, il ajoute en parenthèse après, et après on viendra vous amener en exil en Assyrie, ce qui n'était pas peut-être ce qu'il voulait, mais parce que Dieu avait promis ce pays à son peuple. C'était pas en vue d'un exil en Assyrie. Et dernier argument, de toute façon, les dieux de tous les autres pays n'ont pas pu les sauver, alors votre dieu non plus. Il ne pourra pas le faire. Tous les autres dieux de toutes les villes, de tous les pays, n'ont pas pu résister à ma force, dit Sanchérib. Donc voilà la situation. Alors, Ézéchias fait deux choses. D'abord, il va prier dans le temple, ce qui est un bon réflexe, et il envoie des messagers à Ésaïe. Alors, je ne vais pas mettre la suite, parce que si vous n'étiez pas là, je vous dirais, alors, qu'est-ce qu'il a demandé dans sa prière, et quel message a-t-il envoyé à Ésaïe? Parce qu'on aurait pu penser que, attention, on est en danger, la ville va tomber, on va être détruit. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Le message qu'il a envoyé à Ésaïe, c'est Rabshakeh a insulté Dieu. Voilà, c'est intéressant. Parce que c'est pas leur propre protection, en quelque sorte, c'est Rabshakeh a insulté Dieu. Parce qu'il a comparé à tous les autres dieux qui ne sont pas des dieux. Il a pensé que Dieu était une sorte d'idole comme chez les autres pays, il a insulté Dieu. Et c'est à ce moment-là que Ésaïe confirme que Jérusalem sera sauvée, que Sanchérib, le roi des Assyriens, rentrera au pays et qu'il sera assassiné. Donc, on a lu tout à l'heure comment ça s'est passé. D'abord, une sorte de fléau a atteint une peste, on ne sait pas quoi trop, et des milliers de soldats assyriens ont péri. Sanchérib est rentré chez lui, a été assassiné par ses propres fils, alors qu'il était prosterné dans le temple devant son Dieu. Donc ça s'est réalisé, la prophétie d'Ésaïe. Mais, en attendant, la question est restée, Rabshakeh, comme porte-parole de Sanchérib, a insulté Dieu. C'est à ce moment-là que Ézéchias prie. Et qu'est-ce qu'il demande? Ou qu'est-ce qu'il fait? Il se rappelle d'abord la grandeur de Dieu. Je révise toujours ce qu'on a vu la semaine dernière. Il rappelle les insultes de Sanchérib. Il se rappelle la situation. Et puis il fait deux demandes précises. Ça, c'est au verset 20. Donc, ça, c'est chapitre 20. 37, verset 20, donc juste avant le texte qu'on a lu tout à l'heure. Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de Sanchérib, première prière, et que tous les royaumes de la terre reconnaissent que toi seul, tu es l'Éternel, deuxième prière. Parce qu'en fait, en faisant confiance en Dieu, en espérant contre toute espérance, en quelque sorte, parce que voilà, il semble que le roi des Assyriens était tout puissant, de voir que Jérusalem était quand même sauvée en comptant sur le Seigneur, peut-être ça va jaser un peu partout. Vous voyez, ils ont entendu ce que Dieu a fait pour le peuple d'Israël. Et donc, ils vont reconnaître qu'il y a un seul et vrai Dieu. Donc, c'est la réponse, en fait, à l'insulte. Et la semaine dernière, on a tiré donc trois leçons pour nous, que l'on, nous aussi, on peut faire confiance en Dieu face à nos problèmes. On peut aussi prier que Dieu soit glorifié, et dans ce sens-là, on peut prier que d'autres voient que notre confiance n'est pas vaine. Donc, en quelque sorte, on peut dire ce qu'on veut, les gens n'écoutent pas vraiment, mais ce qu'on vit avec le Seigneur, les gens peuvent le voir, ça peut aussi être une grande partie de notre témoignage de ce que l'on vit avec le Seigneur en lui faisant confiance. Voilà. On peut prier que d'autres voient que notre confiance n'est pas vaine, comme Ézéchias l'a demandé pour Jérusalem. Alors maintenant, on arrive à notre texte de ce matin. La parole de l'Éternel transmise par Ésaïe. Comme j'ai dit, là, on est revenu non pas dans le narratif qu'on avait, qui est relativement facile à comprendre, mais dans le genre prophétique, où il faut comprendre les images, les conventions, la façon de faire d'une prophétie pour bien comprendre ce qui est dit, mais avec, à la fin, je crois, en tout cas, c'était le cas pour moi, trois grandes leçons à méditer pour nous. D'abord, que dit l'Éternel? C'est que l'Éternel a exaucé la prière d'Ézéchias. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sennacherib, le roi d'Assyrie. Première chose. Deuxième chose, on voit qu'on se moque de Rabshaké, car il n'aura pas la victoire escomptée. Excusez-moi, il y a une faute de frappe. Car il a insulté Dieu. Et là, en étant le genre prophétique, elle te méprise, la fille de Sion, la Vierge. Bon, en fait, ça veut dire qu'on compare Jérusalem à une jeune fille. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle hoche la tête. Alors, dans l'Antiquité, une façon de hocher la tête pour montrer le mépris, en quelque sorte. Et ce mépris, ça voulait dire que le pauvre, il se croyait le plus fort, mais ce n'est pas le cas. C'est ça le sens. Ce n'est pas le cas. Parce que, et là, on revient à ce thème principal au verset 23, parce que tu as lancé un regard insolent vers le sein d'Israël. Et parce que, verset 24, par l'intermédiaire de tes serviteurs, tu as défié le Seigneur, disant, c'est grâce à mes nombreux chars que j'ai. Et c'est ça, en quelque sorte, l'insulte que l'on peut faire à Dieu. Je me débrouille tout seul. Je n'ai pas besoin de toi. Bon, maintenant, on peut ramener ça à notre vie. On n'est pas dans une ville entourée d'une armée, mais on est quand même entouré de gens qui disent « j'ai pas besoin de Dieu, je me débrouille tout seul. J'ai pas besoin de la Bible, je vais à la librairie, il y a plein de livres de développement personnel qui vont m'aider à m'en sortir. » Donc c'est grâce à mes études, grâce à ma débrouillardise, grâce à mon carnet d'adresses, que je vais pouvoir m'en sortir. Et il dit, voilà, j'ai plein de projets, j'ai commencé à envahir le Liban, et j'irai jusqu'au sommet, et puis après je mettrai à sec avec les plantes de mes pieds tous les fleuves de l'Égypte. Donc la Syrie voulait... Ah, Jérusalem n'était qu'une petite étape en route. L'objectif après, c'est d'aller jusqu'en Égypte, comme on a vu sur la carte. Et c'est là qu'on tombe sur un truc totalement inattendu. C'est pas Dieu dit, oui, j'avais prévu tout cela, depuis longtemps. Ça faisait partie de mes plans. donc le verset 26, je le relis. « N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces événements depuis longtemps, que je les ai prévus dans un lointain passé, et j'ai permis maintenant qu'ils s'accomplissent, et que toi, donc, Sanchérib, tu transformes des villes fortifiées en tas de ruines, et que leurs habitants soient impuissants, épouvantés et pleins de honte. » J'ai prévu ça depuis longtemps. On pourrait débattre longtemps de ça, et je vais revenir à ça tout à l'heure. Mais de dire que Dieu a tout prévu dans le déroulement de l'histoire, c'est une pensée qui explose notre tête quelque part. Il a dit, j'ai tout prévu. Peut-être, je donne une toute petite indication, si il a permis cela, c'est justement pour que les nations environnantes comprennent vraiment que Dieu est le plus fort. Et si Sanchérib n'était pas venu, il n'aurait pas conclu cela. Donc, on est toujours dans les si. Je vais revenir à ça tout à l'heure. Dieu avait prévu ça depuis longtemps, mais également, il avait aussi prévu la fin de la vie de Sanchérib. Et il dit, oui, tu es furieux contre moi et ton arrogance est montée à mes oreilles. Et il compare en fait à du bétail. Il dit, je vais mettre un anneau à tes narines, un mort entre tes lèvres et je vais te faire repartir par le chemin que tu as pris à l'aller. Donc, le grand roi de cet empire assyrien est comme du bétail que Dieu va conduire avec un anneau dans le nez pour qu'il retourne chez lui. Dieu est le plus fort quand même. Et il dit, voilà, et la délivrance est proche. Là, Dieu s'adresse au peuple d'Israël. Et il dit, ben, cette année, vous mangerez ce que le grain tombé en terre produit, hein, parce qu'avec toute cette invasion, ils n'ont pas pu cultiver leur terre. Donc, ils allaient manger seulement ce qui était tombé dans la terre. La deuxième année, ce qui va repousser tout seul. Mais la troisième année, donc là, vous allez pouvoir planter des vignes, moissonner, manger des fruits, etc. Donc, ce sera la délivrance. Et ce qui est intéressant, c'est que cette délivrance, il le compare à un petit reste. C'est un mot qui est très très souvent utilisé par les prophètes de l'Ancien Testament, un reste. C'était important parce que c'est vrai que Dieu avait fait une alliance avec un peuple, le peuple d'Israël, mais au sein de ce peuple, il n'y avait qu'une petite partie qui croyait vraiment en lui. Il y avait toujours des gens qui faisaient semblant d'aller au temple, de faire ce qu'il fallait, mais il y a toujours une minorité qui était restée fidèle à Dieu. Mais cette minorité, c'est la vraie minorité qui va rester, qui va perdurer. Et ce qui est intéressant au verset 31, c'est que, en fait, puisqu'il vient de parler de la moisson, il dit, ces rescapés, ces restes, sont également comme ce champ cultivé. Ils vont plonger les racines vers le bas et ils vont porter du fruit vers le haut. Donc, ils vont plonger leurs racines en Dieu. Ils vont porter du fruit pour Dieu. Parce que, en effet, verset 32, un reste sortira de Jérusalem et du mont Sion des rescapés. Et donc, conclusion, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le maître de l'univers. Et puis, finalement, seulement, il arrive au fait que la ville sera protégée, les versets 33 à 35. Le roi de la Syrie n'entrera pas dans cette ville, il ne tirera pas de flèches, il ne construira pas de retranchement contre elle. Hein, donc, il mettait de la terre pour pouvoir monter au-dessus des murailles. Hein, donc, et repartir par le chemin qu'il a pris à l'aller. Mais là, ce qui est intéressant, c'est la fin du verset 35. Et là, on revient à notre thématique de l'injure, de l'insulte. Je protégerai cette ville pour la sauver à cause de moi-même et à cause de mon serviteur David. Il le fait pour son nom, pour prouver autour de lui qu'il est le plus puissant, qu'il est le maître de l'univers, qu'il est capable de protéger. Et aussi à cause de mon serviteur David, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il avait fait des promesses à David et reste fidèle à ses promesses, qu'il y aura toujours un roi Davidique sur le trône, il y aura toujours un peuple avec un roi issu de la descendance de David, bah, c'est nous encore, hein? Parce que Jésus, il est de la lignée de David, nous avons un roi, il est le roi des rois. Donc on est toujours, on fait partie toujours de ce reste, de cette minorité qui appartient au Seigneur, avec un roi davidique. Donc il le fait pour son nom, pour que son nom soit glorifié. Et j'ai souvent dit, et je m'exhorte moi-même toujours dans ce sens-là, que le but de notre vie, c'est soli Deo gloria, à Dieu seul soit la gloire. Que nous puissions glorifier Dieu, que nous mangions, que nous buvions, quoi que nous fassions. Donc, ça c'est 1 Corinthiens 10. Faites tout pour la gloire de Dieu. Et donc voilà, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a le petit PS proscriptum historique, ce qui s'est passé par la suite. Il lève le camp, il repart chez lui et il est assassiné. Alors je crois que c'est important. Après avoir vu tout cela, je sais que je suis allé assez vite sur cette prophétie. C'est vrai qu'on en a vu beaucoup au cours de cet été, de ces prophéties d'Ésaïe. Mais vous avez vu les grandes lignes. Et donc, des leçons à apprendre. Et moi, je me suis dit, ces leçons-là sont tellement profondes que ce n'est pas d'un seul petit coup d'enseignement qu'on va les approfondir. Il faut presque une vie, toute notre marche avec le Seigneur pour les comprendre et pour les mettre vraiment en pratique. La première leçon, c'est que Dieu a agi en réponse à la prière d'Ézéchias. Bon, vous allez dire, ok, c'est normal, Dieu exauce les prières. Mais en même temps, rappelez-vous, Ésaïe a dit de la part du Seigneur que tout ça a été prévu depuis longtemps, avant qu'Ézéchias existe. Alors, c'est quoi? Est-ce que Dieu avait déjà prévu ou est-ce que c'est grâce à la prière d'Ézéchias? Vous voyez la question qui est posée. Mais en fait, la prière ne remet pas en question la souveraineté de Dieu. Nous qui vivons en temps réel, aujourd'hui, on sait que Dieu a un plan éternel, qu'il a un peuple, qu'il a sauvé et qu'il sauvera pour l'éternité. Tout ça, on sait que ça se déroule dans tous les petits recoins de l'histoire, aujourd'hui même, alors que nous sommes ici dans un village en Russie, dans une tribu en Amazonie, dans une grande ville en Asie, le Seigneur est en train de faire des choses pour mettre les gens en situation pour entendre l'Évangile et en train de... Tout ça se déroule. Mais en même temps, il nous demande de prier, parce que quelque part, nos prières rentrent aussi dans ce plan de Dieu. Il nous demande de prier. Pourquoi? Je pense qu'il y a plusieurs raisons pour ça. D'abord, pour nous montrer bien que son plan se déroule, oui, mais nous avons quand même de l'importance en tant qu'être humain. Nous ne sommes pas des marionnettes qui sont soumises à son plan. On contribue quelque part. Et son plan tient compte du fait que dans cette tribu amazonienne, il y a peut-être un chrétien. Dans le village de la Russie, il y a un chrétien qui prie. Dans une grande ville, dans un quartier, dans un immeuble à Hong Kong ou je ne sais pas quoi, il y a un chrétien qui prie pour ses voisins et ça fait partie de la réalisation de son plan. L'un n'exclut pas l'autre. Donc c'est montrer toute l'importance de la prière. Et je me dis, waouh, j'ai encore beaucoup à apprendre dans ce sens-là. Parce que ma prière fait partie du déroulement du plan de Dieu. Et je pense qu'il est possible que nous, qui vivons en Occident, on peut facilement oublier cela, parce que notre vie est tellement organisée, le moindre truc, le moindre petit accident, allez, on va aux urgences, le moindre problème financier, on va à la mairie pour voir s'il n'y a pas une caisse quelque part, enfin, etc., etc. Donc, on peut se débrouiller sans Dieu. Et donc, je pense que nous, en Europe, on a vraiment à prendre au sérieux cette histoire de la prière. Et en préparant ce message, en écoutant, je me suis dit, David, il faut que tu prennes encore plus au sérieux ces questions de la prière, qu'en faisant partie du plan de Dieu. C'est pour ça que j'ai dit, bon, ces leçons, ce sont des leçons profondes et qui durent notre vie durant. La deuxième chose, c'est de bien comprendre que Dieu est le maître de l'histoire, malgré les apparences. Si un chrétien actuellement qui croupit dans une prison quelque part parce qu'il est persécuté, c'est dire quand même Dieu est le maître de l'histoire. Quelqu'un qui est malade, gravement malade, dire Dieu est quand même le maître. Quoi qu'il arrive, ça vient pas tout seul, hein, d'accepter cela. Que Dieu est vraiment le maître de l'histoire. Qu'il y aura des rachetés du Seigneur qui font partie de cela. Et là, on est presque à la fin de la première partie d'Ésaïe, à partir du chapitre 40. Il met beaucoup l'accent sur le reste, sur les rachetés, sur le peuple messianique, parce que cette deuxième partie d'Ésaïe parle beaucoup sur le plan prophétique de la venue du Messie. Dieu est vraiment le maître de l'histoire, et ici même il y a une perspective messianique, et nous vivons toujours dans le plan de Dieu qui se déroule. Pourquoi? Je crois que j'ai cité cet été, mais puisque tout le monde n'était pas là, je le redis, j'ai rencontré une femme dans une église dans le midi de la France, quand je faisais un enseignement, qui avait été gravement malade pendant quelques mois. Elle a dû garder le lit. Et elle dit, jamais j'ai eu autant de voisins qui sont venus chez moi pour faire les courses, pour discuter avec moi. Jamais je n'ai eu autant d'occasions de témoigner, de parler du Seigneur, que pendant cette période difficile. Mais, humainement parlant, on préférerait être en bonne santé. Et pourquoi les choses nous arrivent, on n'a pas toujours les réponses. On n'a pas les réponses. Je pourrais vous recommander un livre publié par le GBU sur le hasard et le plan de Dieu qui essaie d'approfondir ces questions-là. Et la troisième grande leçon, c'est que malgré tout dans tout cela, Dieu protège son peuple. Tout comme il a protégé Jérusalem, il va protéger son Église. On n'est plus dans la même situation. Parce que dans l'Ancien Testament, il y avait le danger militaire. Le petit pays d'Israël aurait pu être détruit à maintes reprises. Mais il fallait résister quelque part, et souvent ça passait par des victoires militaires. Parce que c'est le peuple de Dieu qui devait être le berceau du Messie, et ce peuple-là aurait pu être détruit avant que l'histoire arrive à l'an zéro, on va dire, où le Messie Jésus est né. Donc il fallait protéger ce peuple de façon militaire. Aujourd'hui, les chrétiens ne se défendent pas de la même façon. D'abord, les chrétiens sont répartis sur toute la surface de la terre, et ce n'est pas de cette façon-là qu'on va se protéger. On va demander que Dieu nous protège des insultes, des pressions, de la persécution, du mépris des autres, pour que nous puissions vivre pour le Seigneur dans la joie et la paix, et le faire connaître autour de nous. Je crois que j'ai dit il y a 15 jours aussi que cet été, j'ai lu pas mal l'histoire du roi David et les psaumes qu'il avait composés, parce que lui aussi était continuellement attaqué, surtout, comme Olivier l'a dit tout à l'heure, au début de sa vie par le roi Saül, avant d'accéder au trône lui-même. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on lit les psaumes, on peut les lire encore aujourd'hui, on transpose un peu, on n'est plus dans la question des flèches, etc. Voilà, mais les mêmes confiances en Dieu se révèlent. Et c'est quelque chose qui s'est passé au cours de l'histoire, et on peut terminer notre culte avec cela, parce que le psaume 46, je ne veux pas le lire, mais dit, et là c'est extraordinaire comment Dieu nous conduit, parce que presque tout ce que Olivier a dit ce matin allait très bien avec le message. Le psaume 46 qui dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. » Et un chrétien dont vous avez peut-être entendu parler, un certain Luther, une des personnes qui ont déclenché la réforme protestante, hein, pour retrouver la grâce de Dieu, a écrit un cantique basé sur le psaume 46.